cet exposé de l'anarchisme dans le cadre de nos conférences de philosophie politique, dans lequel donc nous faisons un parcours rapide, mais non pas nécessairement inexact, des grandes familles de pensée politique qui se recoupent plus ou moins avec des prises de position politique, pas toujours. Et j'avais insisté sur le fait que il n'y a finalement rigoureusement que trois familles politiques, donc que j'ai désignées sous le nom de socialisme, que nous avons décrit à travers Rousseau, que j'ai désignées sous le nom de libéralisme, que j'ai principalement décrit à travers Benjamin Constant, et le mouvement que l'on peut appeler conservateur, que j'ai essentiellement décrit à travers Edmund Burke. Et puis j'ai dit, donc il y a essentiellement trois familles politiques, et cependant on va en ajouter deux, mais qui, au fond, apparaissent davantage comme un refus du politique. Alors c'est ce propos que j'ai risqué et que je vais expliciter ce soir pour vérifier si il tient la route. L'anarchisme, à proprement parler, est à la fois un refus de la politique et une manière d'en poser le problème de manière radicale. Parce que si vous étiez présent lors de la première soirée où j'ai tenté d'analyser ce qu'est la politique, nous avons insisté sur le fait que la politique, c'est le pouvoir entre égaux. Et que le pouvoir entre égaux met la politique dans une contradiction initiale. De telle sorte qu'on peut trouver que ce pouvoir n'a pas de légitimité, ou on peut se demander, mais au nom de quoi, quitte à faire roi, et on peut se demander donc au nom de quoi quelqu'un serait conduit à imposer sa volonté à d'autres. Comment, entre égaux, peut-on introduire une hiérarchie, une autorité surplombante? En ce sens, donc, l'anarchisme pose bien, de manière radicale, la question du politique, mais d'une manière sans doute aussi radicale que cela déréalise complètement l'activité politique ainsi reconduite à son origine, mais pour être discréditée, ruinée. D'ailleurs, cela peut se remarquer au fait qu'à proprement parler, il n'y a pas de doctrine anarchiste. D'ailleurs, cela apparaît sur le programme où, sans m'en rendre compte, j'avais mis une liste d'ismes et je n'ai pas mis anarchisme, j'ai mis anarchie. Vous vérifierez sur les programmes. Je n'ai pas fait attention à ce lapsus. Je m'en suis rendu compte quand j'ai relu les programmes. Mais j'ai sans doute commis ce lapsus parce qu'il est difficile de penser un corps théorique de l'anarchisme qui est beaucoup plus une morale, une esthétique peut-être, enfin une attitude spirituelle, radicale, plus que, à proprement parler, une politique. D'ailleurs, cet anarchisme, donc je disais, on en trouvera difficilement un théoricien modèle, parce que les anarchistes, comme il se doit entre eux, sont assez hétéroclites. C'est la moindre des choses pour des anarchistes, en quelque sorte. Et puis, on n'a pas non plus à notre disposition de modèle historique bien reconnaissable de ce qu'aurait été un moment, un État, un territoire régi selon les principes de l'anarchisme. On a, plutôt que des modèles historiques, on a des événements symboliques. D'ailleurs, c'est très parlant que ce soit essentiellement des événements symboliques, avec une portée quasiment mythologique. La Commune, le moment terroriste à la fin du 19e avec Émile-Henri Caserio décapité à Lyon après avoir assassiné le brave Carnot. On a quelques épisodes dans le mouvement antifasciste en Espagne. Et puis, mai 68, dans ses résonances esthètes, dans son allure, voilà. Mais ces quelques épisodes à valeur symbolique beaucoup plus que des constructions sociales, des réalisations à proprement parler. Il y a quelques épisodes, quelques événements symboliques, et puis il y a quelques supports symboliques dont le canard enchaîné reste un des derniers échos, c'est-à-dire une littérature libertaire, impertinente, provocatrice et dont l'origine est la célèbre feuille de chou appelée le Père Pénard, qui fut fondée par un nommé Pouget sur lequel nous reviendrons. Voilà, donc plus qu'une politique, une attitude prophétique. Cette attitude prophétique, on peut assez aisément la décrire dans une situation originaire, une situation qui nous servira d'archétype. Vous voyez, la situation originaire du conservateur, ça serait la famille. La situation originaire du libéral, ça serait le commerce. La situation originaire du socialiste, ça serait l'Assemblée. La situation originaire de l'anarchiste, ça serait au fond la fête. La fête avec son caractère précisément subversif. Puisque la caractéristique de la fête, c'est d'affirmer le lien social par la subversion de l'ordre. Une société, quand elle se livre à un moment festif, affirme l'ordre par la négation de cet ordre. Une société qui repose sur les distinctions, distinction des riches et des pauvres est abolie dans la fête, distinction des femmes et des hommes s'est abolie dans la fête, distinction des jeunes et des vieux s'est abolie dans la fête, distinction du jour et de la nuit s'est abolie dans la fête. Distinction de la lucidité et de l'ivresse s'est abolie dans la fête, et même distinction des morts et des vivants. Et donc, la fête est le ressourcement du lien social par le chaos des mises en ordre qui, ordinairement, compartimentent ce lien social. Si bien que la fête est un moment de communion qui se nourrit essentiellement de transgressions. C'est à cela qu'aident l'alcool, les déguisements et toutes les manières d'abolir justement les statuts, avec un T, pour faire apparaître donc cette communion à laquelle la collectivité se régénère. Or, alors, on le sait, les événements de mai 68 ont souvent été présentés comme une sorte de fête, d'explosion qui manifeste de manière esthétique que sous les pavés, il y a la plage. Et quand on regarde la description que Bakounine, qui est parmi les penseurs principaux de l'anarchisme. Quand on regarde la description que Bakounine donne de février 48, donc Bakounine qui a passé son temps à voyager dans toute l'Europe, à être condamné à mort un peu partout, est condamné à mort en Allemagne, les Allemands l'expulsent en Autriche, il est condamné à mort en Autriche, les Autrichiens l'expulsent en Russie, il est condamné à mort en Russie. Bon, il va finir dans un procès à Lyon, enfin bon, une très belle vie qui va de la Suède à l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, de procès en incarcération. Et d'ailleurs, la plupart des vies des anarchistes, c'est ça. C'est des types, quand les rares fois où ils sont libres, c'est pour retourner aussitôt en prison. Et alors, il raconte son arrivée à Paris en pleine effervescence de février 48. Cette ville énorme, le centre de la culture européenne, était soudain devenue un Caucase sauvage. Dans chaque rue, presque partout, des barricades dressées comme des montagnes et s'élevant jusqu'au toit. sur ces barricades entre les pierres et les meubles endommagés, tels des Géorgiens dans leur gorge, les ouvriers en blouse pittoresque, noirs de poudre, armés jusqu'aux dents. De gros épiciers au visage abêti par l'épouvante, regardant peureusement par les fenêtres. Dans les rues, sur les boulevards, pas une seule voiture. Disparus tous les vieux fats, tous les odieux dandys à lorgnon et à badine. Et à leur place, les nobles ouvriers, masse enthousiaste et triomphante, brandissant des drapeaux rouges, chantant des chansons patriotiques et grisés par leur victoire. Et au milieu de cette joie sans borne, de cette ivresse, tous étaient à tel point doux, humains, compatissants, honnêtes, modestes, polis, aimables et spirituels que chose pareille peut seulement se voir en France et là encore seulement à Paris. J'eus donc ainsi l'occasion de voir les ouvriers et de les étudier du matin au soir. Jamais nulle part, dans aucune autre classe sociale, je n'ai trouvé autant de noble abnégation, ni tant d'intégrité vraiment touchante, de délicatesse dans les manières, d'aimable gaieté, unie à un pareil héroïsme, etc. Cette fête, on peut même dire que elle a une signification eschatologique. C'est-à-dire qu'elle fait signe vers les temps derniers. Chaque politique, enfin en tout cas bien des pensées politiques, pourrait être caractérisée par la manière dont elles décrivent la fin. Eschatos, eschaton, c'est la fin. Donc on appelle eschatologie les considérations sur les fins dernières. Et cette fête a une signification eschatologique parce qu'elle est l'expression, eh bien, du fameux jour du grand soir. Si l'espoir des socialistes, c'est les lendemains qui chantent, l'espoir des anarchistes, c'est le jour du grand soir. D'ailleurs, dans lequel on trouve précisément la subversion de la distinction du jour et de la nuit, déjà. Et le jour du grand soir, il a un côté apocalyptique, eschatologique, de révélation d'un ordre nouveau qui passerait donc par l'effondrement volcanique de l'ordre ancien. Je ne résiste pas au plaisir. Ce soir, on va entendre des textes merveilleux parce que les anarchistes sont vraiment des hommes attachants. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire un texte, justement, du fondateur du Père Pénard, Pouget, qui dit « La grève générale, par exemple, c'est aussi un autre mythe eschatologique. Mais cette grève générale, elle est présentée comme, justement, faite. » D'ailleurs, si vous relisez l'Espoir de Malraux, vous y verrez les mêmes caractéristiques. « Oui, nom de Dieu, il n'y a plus que ça aujourd'hui, la grève générale. » Voyez ce qui arriverait si dans 15 jours, il n'y avait plus de charbon. Les usines s'arrêteraient, les grandes villes n'auraient plus de gaz, les chemins de fer roupilleraient, et du coup, le populo, presque tout entier, se reposerait. Ça lui donnerait le temps de réfléchir. Il comprendrait qu'il est déjà salement volé par les patrons. Et dame, il se pourrait bien qu'il leur secoue les puces dardard. Donc, une fois que les mineurs seraient tous en l'air, que la grève serait générale, faudrait, nom de Dieu, qu'ils se foutent à turbiner pour leur propre compte, les patrons. La mine... parce qu'en même temps, j'invente. de temps en temps, je me trompe quand j'invente. Il ne faut jamais me croire quand je lis un texte. je vous le relis, du coup. Excusez-moi. Donc, une fois que les mineurs seraient tous en l'air et que la grève serait quasi générale, faudrait, nom de Dieu, qu'ils se foutent à turbiner pour leur propre compte. La mine est à eux, elle leur a été volée par les richards, qu'ils reprennent leurs biens, mille bombes. Et le jour où, à ces marioles, il y aura une tripotée de bomboucres qui commenceront le chabani dans ce sens, eh bien, foi de Père Pénard, le commencement de la fin sera arrivé. On ne peut pas avoir un texte eschatologique plus parfait. Commencement de la fin sera arrivé. Alors on va essayer de caractériser cette attitude. Dans un premier temps, je développerai l'attitude fondamentale des anarchistes qui est le refus de l'autorité. Dans un deuxième temps, je développerai l'idée de la révolte qui caractérise l'anarchisme. Et puis dans un troisième temps, je pointerai quelques zone d'application éventuelle. Anarchiste peut avoir deux sens selon que on utilise d'une manière ou d'une autre le préfixe « a » ou « an ». Mais au fond, dans les deux sens, ça revient au même. Anarchiste, ça veut dire, ça peut vouloir dire, et c'est généralement comme ça que c'est entendu, absence de commandement. Arché, c'est le commandement et le commencement en grec. Ou bien certains disent que cela peut vouloir dire le commandement en remontant, puisque ana, c'est le mouvement de remonter en grec. Mais dans les deux cas, cela conduit à la remise en cause donc de l'autorité. Peggy, qui avait beaucoup de sympathie pour les anarchistes, préférait le mot acratisme. Et je crois que ça aurait été plus juste. Parce que dans l'idée de arché, il y a l'idée de commandement, mais il y a aussi l'idée de commencement et celle d'ordre. Or, l'anarchisme, ôtez-vous de l'esprit que l'anarchisme soit le désordre. Les anarchistes conçoivent le monde auquel ils ouvrent comme un ordre fondamental qui a été caché, qui a été occulté par des ordres artificiellement construits. Alors que kratein, c'est vraiment commandé, c'est vraiment l'image du pouvoir, démocratie. Et de telle sorte que Peggy dit à juste titre qu'il vaudrait mieux dire « acratie » plutôt que « anarchie ». Le mot « anarchie » prévaut, il n'est pas inexact, de toute façon les mots ont le sens que leur donne leur usage. Et donc ce qui intéresse les anarchistes, c'est la question de l'autorité. Qu'est-ce que l'autorité ? On a déjà eu l'occasion de parcourir cette idée. L'autorité, c'est la probabilité qu'un homme a de voir sa volonté exécutée par un autre. Ce qui est étrange, qu'un homme puisse faire exécuter sa volonté par un autre. Ouvre la porte, passe-moi le sucre. Et on peut voir là une lésion de la liberté fondamentale de l'individu. C'est pourquoi l'anarchiste, à la différence, par exemple, du marxiste, et c'est ce qui va entraîner entre les deux cousins tant d'affrontements et très sanglants, c'est pourquoi l'anarchiste, à la différence du marxiste, ne s'intéressera pas à la question de l'exploitation, de l'injustice. Ce qui l'intéresse, ça n'est pas d'établir un ordre plus juste, c'est de laisser surgir, de laisser advenir la liberté. Donc ce qui intéresse le marxiste, c'est l'exploitation. Ce qui intéresse l'anarchiste, c'est l'aliénation. Aliénation signifiant que le principe de mon action se trouve en dehors de moi. Le principe de mon action se trouve dans l'autre. Est aliéné celui dont l'action est expliquée par quelqu'un d'autre. Et donc, si l'autorité, c'est la probabilité que j'ai de voir ma volonté exécutée par un autre, celui qui exécute cette volonté pourra être dit aliéné. Et voilà pourquoi on peut dire que les anarchistes sont ceux qui soulignent qu'en tout cas, il n'y aura pas de justice sans liberté. Cette revendication contre l'autorité est à proprement parler ontologique, c'est-à-dire qu'aucune conscience ne devrait se défaire de sa propre volonté. Et c'est la raison pour laquelle les anarchistes, à travers leurs différents courants, sont experts à analyser les ressorts de la servitude. Se réclamant d'ailleurs assez souvent du très célèbre texte de la Boétie sur le discours de la servitude volontaire. Texte donc de la Boétie au XVIe siècle. La Boétie était le grand ami de Montaigne. Et donc au XVIe siècle, la Boétie écrit un discours de la servitude volontaire dans lequel il s'étonne que les hommes, au fond, se soumettent et même trouvent une certaine satisfaction à se soumettre. Si bien que l'analyse que font les anarchistes du phénomène de l'autorité excusez-moi, soulignera d'un côté la passivité de celui qui va vénérer l'autorité, va se donner raison de la vénérer, et donc tous les processus de soumission qui l'accompagnent, et la surestimation de soi. Tout pouvoir est mauvais, tout pouvoir, quel qu'il soit, est mauvais, parce qu'il engendre l'extériorisation de la volonté est hors de soi, et pour que la volonté accepte d'être hors de soi, il faut qu'elle soit résignée à sa propre passivité, à sa propre infériorité. Et ce pouvoir est mauvais également pour celui qui l'exerce, car celui qui l'exerce va être conduit à la surestimation de soi. Car quiconque exerce une autorité va se donner raison. Et va dire « heureusement que j'exerce l'autorité, les autres ne savent pas, ne peuvent pas comprendre ». Et il faut bien que j'exerce cette autorité, puisque les autres ne savent pas et ne peuvent pas comprendre. Et donc l'autorité est perverse, ne cessant d'augmenter l'avilissement odieux de celui qui se soumet et la surestimation non moins odieuse de celui qui donne des ordres pleins de morgue. C'est ce qui explique que, donc j'ai dit, il y a des anarchismes. C'est une famille très complexe, c'est une nébuleuse irréductible à une doctrine. Alors en particulier, il y a deux sensibilités anarchistes, une sensibilité individualiste et une sensibilité fédéraliste. Le premier anarchiste en date, si on accepte Érostrate, qui est leur modèle, le premier anarchiste en date, c'est Max Stirner, dans un livre publié en 1841, qui s'appelle « L'unique et sa propriété ». Et dans ce livre, Max Stirner insiste sur le fait que aucun homme, légitimement, ne peut renoncer à sa propre personnalité. Et ce qu'il doit défendre, ce n'est pas tant ses droits, ses intérêts, sa dignité sociale ou que sais-je, c'est sa personnalité. Si bien que si une société est concevable, elle ne sera concevable que sous la forme d'une association provisoire de volonté singulière constamment en mesure de se dissoudre. L'acte fondamental, au fond, sera celui de la dissolution, dans lequel il est rappelé que chaque individu ne s'est associé que pour servir sa propre volonté. Qu'une société, par exemple celle de l'État, rogne ma liberté, peu me choque. Il me faut bien me résigner à laisser réduire ma liberté par toutes sortes de puissances. Quand bien même je serais l'autocrate de toutes les Russies, je ne pourrais pas jouir d'une liberté absolue. Mais quant à mon individualité, je ne veux pas qu'on y touche. Or, c'est précisément l'individualité que la société prend pour cible et qu'elle entend assujettir à son pouvoir. Là, il y a une distinction très profonde qui éclaire bien la nature même de l'anarchisme. Au fond, plus essentiel que la liberté, si on entend liberté au sens de la capacité formelle d'agir. Plus essentiel que la liberté, il y a la personnalité. Et c'est pourquoi je disais que c'est une protestation qui est ontologique, beaucoup plus que politique. Et cette personnalité, c'est ce qui fait de chacun d'entre nous quelqu'un d'unique. Tout pouvoir uniformise. Tout pouvoir collectivise, donne à tous la même consigne. Et donc, je peux concéder que, pour reprendre un exemple qui m'a été suggéré par l'un d'entre vous, je peux concéder qu'au feu rouge, je m'arrête. Mais je refuse de concéder quelque chose de ma personnalité, de mon originalité, de, au fond, de mon être d'esprit. Et c'est ce qui va évidemment opposer radicalement les anarchistes, on reviendra là-dessus, aux communistes. Puisque les anarchistes reprochent aux communistes de ne pas faire autre chose que d'améliorer le pouvoir, alors même qu'il faut le ruiner. Et d'instaurer justement un ordre uniforme, alors qu'une association, ici distincte d'une société, devrait être composée exclusivement donc d'originaux singuliers. Une société à laquelle j'adhère, continue Stirner, m'enlève certes quelques libertés. Peu importe aussi que je me prive moi-même de telle ou telle liberté, par exemple par contrat. En revanche, je veillerai jalousement sur mon individualité. Toute communauté tend plus ou moins, selon l'étendue de son pouvoir, à s'ériger au-dessus de ses membres et à restreindre leur liberté de mouvement. Elle leur demande, et elle est obligée d'exiger d'eux, l'intelligence bornée propre au sujet. Elle les veut assujettis, elle n'existe que par leur suggestion. Bien. Alors ce refus de l'autorité est total et s'étend à toute autorité, prioritairement bien entendu à l'autorité religieuse. Ni Dieu ni maître. L'athéisme anarchiste tient au fait que Dieu est l'archétype de tous les pouvoirs, celui qui justifierait la soumission. Bakounine, qui ne donne pas dans la nuance, c'est pas le style, avait une merveilleuse sentence. Si Dieu existe, l'homme est esclave, or l'homme est libre, donc Dieu n'existe pas. C'est absolument parfait comme résumé. C'est un peu plus développé que ni Dieu ni maître, mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire que la première soumission, celle qu'il faut en premier lieu rejeter, et qui est au principe de tous les autres, donc c'est la soumission religieuse. Tout pouvoir, en effet, est de nature religieuse. Pourquoi tout pouvoir est-il de nature religieuse? Rappelez-vous, on l'a vu dans un tout autre contexte avec Burke. Parce que Burke nous a dit « le pouvoir doit être caché, les racines du pouvoir doivent être cachées. Il est bon qu'un voile pudique couvre les origines du pouvoir », nous a dit Burke. Mais cette occultation des origines du pouvoir, c'est justement ce qui fait de tout pouvoir un pouvoir religieux, qui trouve sa force dans son mystère. Et à chaque fois qu'un homme en commande un autre, à chaque fois qu'une volonté se soumet, il se reproduit quelque chose de type religieux, car il est tout aussi irrationnel, quelles que soient les circonstances, qu'un homme en commande à un autre. Écoutez Kropotkin, là aussi, d'ailleurs, au cours d'un procès à Lyon, qui a abondamment eu des procès anarchistes, de toute façon, bon, la fin du 19e a été nourrie d'épisodes semblables. Il n'y a pas deux espèces de gouvernement, comme il n'y a pas deux espèces de religion. Le gouvernement est de droit divin où il n'est pas. De même que la religion est du ciel où elle n'est rien. Gouvernement démocratique et religion naturelle sont deux contradictions. À moins qu'on ne préfère dire deux mystifications. Aussi, comme les principes ne peuvent faillir, que les hommes seuls ont le privilège de l'inconséquence, le gouvernement, dans Rousseau, aussi bien que dans la Constitution et toutes, de 91 et toutes celles qui ont suivi, n'est-il toujours, même en dépit du procédé électoral, qu'un gouvernement de droit divin? Une élection ou gouvernement de droit divin, c'est également absurde. Une autorité mystique et surnaturelle. Suivez cette série. Dans la famille, le gouvernement se pose par la génération. Dans les mœurs sauvages et barbares, il se pose par le patriarcat. Dans les mœurs sacerdotales, il se pose par la foi. Dans les mœurs aristocratiques, il se pose par la caste. Dans le système de Rousseau, devenu le nôtre, il se pose par le nombre. La génération, la force, la foi, la primogéniture, le nombre, toutes choses également inintelligibles et impénétrables, sur lesquelles il n'y a point à raisonner. L'absurde est indiscutable. Et fonder le pouvoir sur la paternité, c'est absurde. Fonder le pouvoir sur la primogéniture, c'est absurde. Fonder le pouvoir sur le nombre, c'est absurde. Former le pouvoir sur l'autorité religieuse, c'est absurde. Ce qui est absurde est indiscutable. Tout pouvoir est religieux. Il n'y a point à raisonner, mais à se soumettre. Plus loin, Kropotkine, toujours à Lyon, dira... Les anarchistes, messieurs, sont des citoyens qui, dans un siècle où l'on prêche partout la liberté des opinions, ont cru de leur devoir de se recommander de la liberté illimitée. Oui, messieurs, nous sommes de par le monde quelques milliers et quelques millions de travailleurs. Kropotkin était un aristocrate russe de la plus haute caste. Oui, messieurs, nous sommes de par le monde quelques milliers et quelques millions de travailleurs qui revendiquons la liberté absolue, rien que la liberté, toute la liberté. Nous voulons la liberté, c'est-à-dire que nous réclamons pour tout être humain le droit et le moyen de faire tout ce qui lui plaît, de ne faire que ce qui lui plaît, de satisfaire intégralement tous ses besoins sans autre limite que les impossibilités naturelles et les besoins de ses voisins également respectables. Nous voulons la liberté et nous croyons son existence incompatible avec l'existence d'un pouvoir quelconque, quelle que soit son origine et sa forme, qu'il soit élu, imposé, monarchique, républicain, qu'il s'inspire du droit divin ou de la sainte ampoule, ou du suffrage universel. C'est que l'histoire est là pour nous apprendre que tous les gouvernements se ressemblent et se valent. Les meilleurs sont les pires. Plus de cynisme chez les uns, plus d'hypocrisie chez les autres. Avec ce refus de l'autorité, on le sait, les anarchistes soutiennent le refus de la propriété. Même si la position de Proudhon a évolué au cours des années, le mot célèbre de Proudhon, « la propriété, c'est le vol », continue d'inspirer les anarchistes. Et en effet, et c'est là que les anarchistes tiennent, me semble-t-il, le point fort, c'est que le pouvoir est source de désordre, la propriété est source de désordre. C'est pourquoi il faut dire que l'anarchisme, c'est l'ordre spontané, c'est l'ordre non prescrit, c'est l'ordre sans commandement, en quelque sorte. Et il est clair qu'on peut aisément penser que la propriété, c'est le désordre. La preuve que la propriété est le désordre, c'est que la destination universelle des biens, des fruits de la terre, qui d'ailleurs permettrait de nourrir tout le monde, est détourné par des actes de propriété qui sont des fictions et qui font que quelqu'un va se prétendre propriétaire de terrains qu'il n'arriverait même pas à parcourir dans la journée au nom d'une feuille de papier et que par là même la destination universelle des biens est détournée dans le plus grand désordre. C'est ce que Mounier reprenait dans une très belle formule qui est celle du désordre établi. La propriété, c'est le désordre établi, dira Mounier, qui fait que quelqu'un peut mourir de faim à côté d'un propriétaire nanti. Et l'idée donc anarchiste, c'est du travail de tous aux besoins de chacun. Mais évidemment, pour passer du travail de tous aux besoins de chacun, ce qui permet la distribution des biens, il faut remettre en question la propriété individuelle des biens. Je vous fais remarquer qu'il faut remettre en question de la même manière la propriété collective, qui restera une propriété. Et ce qui oppose les anarchistes aux communistes, c'est que les communistes n'ont jamais fait que rendre la propriété collective sous la forme de l'étatisation. Ce qui d'ailleurs a renforcé par là même les roues du pouvoir. Puisque cette collectivisation qui passe par l'étatisation met tous les pouvoirs dans les mains de l'État et le rend libre de toutes les oppressions qu'on n'a pas besoin d'imaginer parce que l'histoire les a suffisamment montrés. C'est encore Kropotkine. Il suffit de penser au gaspillage inimaginable de forces humaines qui se fait aujourd'hui pour concevoir ce qu'une société civilisée peut produire, avec quelle petite quantité de travail de chacun et quelles œuvres grandioses elle pourrait entreprendre qui sont aujourd'hui hors de question. Malheureusement, la métaphysique que l'on nomme économie politique ne s'est jamais occupée de ce qui devait constituer son essence, l'économie des forces. Si chacun, dès son enfance, apprenait à connaître d'où vient le pain qu'il mange, la maison qu'il habite, le livre qu'il étudie, et ainsi de suite, et si chacun s'accoutumait à contempler, à compléter le travail de la pensée par le travail des bras dans quelques branches de la production manuelle, la société pourrait facilement s'acquitter de cette tâche de distribuer les biens, sans même tabler sur les simplifications de la production que nous réserve un avenir plus ou moins proche. Qu'une société rentrée en possession de toutes les richesses accumulées dans son sein puisse largement assurer l'abondance à tous, en retour de 4 ou 5 heures par jour de travail effectif dans la production, là-dessus, l'assentiment unanime de ceux qui ont réfléchi à cette question nous est déjà acquis. Puisque toute autorité est constituée, est contestée, puisque toute propriété est contestée, l'issue de l'insurrection ne sera donc pas de mettre en place une institution, ne sera pas de mettre en place un pouvoir meilleur, puisque les meilleurs sont les pires. Et donc ce qui est reproché aux communistes, c'est de vouloir mettre en place un pouvoir meilleur, les meilleurs sont les pires. Et il faut que l'insurrection donc aboutisse à la négation de toute forme d'autorité. C'est la raison pour laquelle les anarchistes parlent de révolte plus que de révolution. La révolution, c'est le réexamen de tous les liens sociaux, la reconstruction de toutes les classes et de tous les types d'activités. Et donc une révolution se veut constructive. La révolte, elle n'aboutit pas à un état postérieur amélioré. Le révolté ne cherche pas une société meilleure. Le révolté, il veut sauver sa conscience. Et ce qui lui semble intolérable, c'est la soumission, la docilité. Et quand bien même cette conscience sauvée dans une espèce d'acte irruptif, d'explosion apparemment irrationnelle, n'aboutirait pas à un ordre plus juste, au moins le révolté a affirmé, comme le dit Stirner, vous voyez, sa personnalité. Et ça ne l'intéresse pas de mettre en place des libertés, ce qui l'intéresse, c'est de protester contre l'absurdité. C'est pourquoi, donc j'ai à plusieurs reprises évoqué l'opposition aux communistes, il y a une page lumineuse de Proudhon, incroyable. Proudhon, en 1858, décrit ce que sera une société communiste. C'est éblouissant. 1858. Écoutez bien. Une démocratie compacte, fondée en apparence sur la dictature des masses, mais où les masses n'ont de pouvoir que ce qu'il leur en faut pour assurer la servitude. D'après les formules et maximes suivantes, indivision du pouvoir, centralisation absorbante, destruction systématique de toute pensée individuelle, corporative ou locale, police inquisitoriale, abolition de la famille, le suffrage universel organisé de manière à permettre la sanction perpétuelle de la tyrannie anonyme par la prépondérance de sujets médiocres et même nuls. Description absolument parfaite. 1858, Proudhon, analysant les thèses communistes, dit « Ben voilà à quoi vous allez arriver. Si vous voulez améliorer le pouvoir, les meilleurs sont les pires. » Et donc, par la révolte, la conscience s'élève au-dessus de tout système possible par une attitude qui est au bout du compte plus métaphysique que politique. C'est ce qui fait que les anarchistes, je disais, on a peu d'épisodes historiques dans lesquels on puisse les repérer. Toutefois, il y a la fin du 19e, j'évoquais Émile Henry, j'évoquais Caserio, on peut évoquer Netchaïev. Qu'est-ce qui les caractérise comme action le terrorisme, l'attentat. Et, or, au fond, cet attentat individuel, Caserio assassinant Carnot, est complètement inutile politiquement. Et c'est d'ailleurs ce que les habiles stratèges dénonceront dans l'attitude anarchiste. On en a un écho dans l'opposition entre Chen et Kyo dans La condition humaine. Où Kyo, donc, est le révolté, justement, qui va préférer mourir dans son attentat pour exprimer toute sa révolte. J'ai dit Kyo ? Chen. Excusez-moi. Donc Chen est le révolté qui préfère mourir dans l'attentat dans lequel il explose lui-même pour accomplir sa révolte, alors que Kyo est le communiste organisateur et discipliné qui finira peut-être un jour par gagner parce qu'il aura été plus organisé, mais il aura gagné au prix du sacrifice des idées mêmes qui fondaient son mouvement. Émile Henry faisant exploser une bombe dans une brasserie. C'est odieux, inutile. Et d'ailleurs, quand dans le procès, on lui dit qu'il a tué des innocents, il a eu cette réponse parfaitement juste d'un point de vue anarchiste, il n'y a pas de bourgeois innocents. Ouais. Seulement, il n'y a peut-être pas de bourgeois innocents, mais il vaut mieux être plus loin d'un anarchiste. Mais vous voyez, l'attentat, c'est l'action typique. Un événement brutal, irréversible, fait par un individu, qui n'appartient pas à proprement parler à un mouvement militaire, mais qui exprime sa colère, je ne prononcerai pas le mot indignation. Comment alors, troisième moment, à travers quelles initiatives cette aspiration donc peut-elle se monnayer ? Alors, la première réalité à laquelle seront souvent attachés les penseurs anarchistes, c'est l'autogestion de proximité. L'autogestion de proximité dont le modèle est la commune, la coopérative. D'ailleurs, les coopératives agricoles sont largement inspirées, dans leurs origines, de thèses proches des anarchistes. Et la commune est l'entité politique maximale. Dès que l'on ira au-delà, on mettra en route les rouages de l'oppression. Cela veut dire que dans une telle commune, dans une telle autogestion de proximité, la propriété se limite rigoureusement à l'usage. Je suis propriétaire de ce dont je me sers. Alors on en a quelques modèles. Par exemple, il y a eu ce dont nos Véloves sont de lointains héritiers. Il y a eu à Amsterdam, dans les années 70, les vélos blancs. Donc vous preniez votre vélo, vous le déposiez, vous preniez un vélo qui devenait le vôtre quand vous l'utilisiez. Vous le posiez, évidemment, vous n'étiez pas sûr de le retrouver en revenant. Mais c'est justement ce qui fait, vous voyez, la différence entre une propriété collective qui serait gestionnaire du bien vélo et puis un usage collectif. Et donc c'est ici qu'on pourrait dire en quelque sorte que les anarchistes abolissent la propriété au nom de la possession. Ce que je possède, c'est ce que j'ai en main, ce dont je me sers. La propriété, c'est ce qui est certifié, ce qui est authentifié par un pouvoir. La possession à la durée de l'usage, alors que la propriété qui est certifiée par un notaire et par des coups de tampon peut aller au-delà de l'usage et que je peux même me trouver propriétaire de choses que je refuse aux autres mais dont je ne me sers pas moi-même. Ce modèle d'expropriation totale. Vous voyez, plutôt que propriété collective, il faudrait dire expropriation totale. On en a trouvé quelques tentatives de réalisation dans les communautés hippies. Donc il y a toute une effervescence de communautés post-68ardes qui ont tenté de vivre ces valeurs d'individualisme radical associé de manière non réglementaire, sans passer par une loi à laquelle les sujets se soumettraient et qui abolirait la propriété, et avec la propriété, bien sûr, ce prolongement de la propriété qu'est la famille. D'où, dans tous les anarchismes, l'abolition, bien entendu, du mariage, l'amour libre, a été pendant très longtemps une revendication anarchiste fondamentale, qui exprime bien, justement, que la conscience ne pose rien au-dessus d'elle. Quand je me marie, ma conscience pose quelque chose au-dessus d'elle, donne en quelque sorte une garantie. Si la conscience est souveraine, d'aucune garantie elle n'a besoin. Et donc elle n'a pas besoin de poser quelque chose au-dessus d'elle. Ma volonté me suffit. Il faut revenir au texte de Stirner. Si je suis une personnalité, si je suis une volonté, je ne vois pas pourquoi j'élèverais un monument au-dessus de moi, susceptible de me tomber dessus. La volonté est auto-proclamée dans ce mouvement, donc, qui abolit simultanément la propriété la famille. Quelques exemples de ce que peut être la commune pour les anarchistes. Alors évidemment, le grand modèle, donc c'était... Alors pourquoi Proudhon s'est-il trouvé arrêté à Lyon ? Bakounine ? Alors, parce que c'est des types, c'est incroyable. Donc il faut savoir que Lyon a été déclarée commune libre avant Paris en 1870. Et donc la commune de Lyon s'est affranchie le 25 septembre, enfin bon, je vous dis n'importe quoi, en tout cas avant Paris, et Bakounine, donc est rentré à l'hôtel de ville, bon, ils ont tout cassé avant de se faire arrêter. Mais ils ont déclaré Lyon commune libre, qui a pris ainsi un temps d'avance sur ce que d'aucuns appellent la capitale. Bakounine. Nous aussi, nous voulons la coopération. Les coopératives. La FNAC, les magasins coopératifs, tout ça, c'est des modèles... Alors, la FNAC, c'est complètement oublié. Hein, mais au point de départ, c'est des modèles anarchistes. Il y a un épisode anarchiste que les plus anciens d'entre nous doivent... dont les plus anciens de nous doivent se souvenir, c'est l'épisode de l'IP à Besançon, quand les ouvriers de l'IP ont voulu s'approprier l'usine et créer une usine autogérée. Il faut d'ailleurs savoir que le Jura est le lieu d'implantation et reste le lieu d'implantation de l'anarchisme. Et avec les ouvriers horlogers, et on a trouvé, c'est passionnant du point de vue historique, donc l'affaire Lip, c'est les ouvriers horlogers du Jura qui ont continué en quelque sorte la même tradition en voulant créer une entreprise complètement autogérée. Et à chaque fois que vous avez, c'est arrivé récemment pour une chaîne de bateaux, pour une France. Voilà, où les ouvriers disent, exactement comme le père Pénard tout à l'heure, eh ben ils n'ont qu'à se mettre au boulot eux-mêmes, puisqu'ils n'ont qu'à s'approprier l'usine et la gérer, donc sur un modèle autogestionnaire. Nous aussi, nous voulons la coopération. Nous sommes même convaincus que la coopération dans toutes les branches du travail et de la science sera la forme prépondérante de l'organisation de l'avenir. Mais en même temps, nous savons qu'elle ne pourra prospérer, se développer pleinement et librement, embrasser toute l'industrie humaine, que lorsqu'elle sera fondée sur l'égalité, lorsque tous les capitaux, tous les instruments de travail, le sol compris, seront rendus à titre de propriété collective au travail. Nous considérons donc cette revendication avant tout et l'organisation de la puissance internationale des travailleurs de tous les pays. Bien entendu, le mouvement anarchiste est nécessairement international, puisqu'il fait voler en éclats les États-nations, les frontières, les armées et les polices. Et la première internationale ouvrière a vu la lutte farouche entre Marx et Bakounine. Lutte dans laquelle Marx ne se montre pas à son avantage, parce qu'il dénonce Bakounine comme agent du tsar. Bon. C'est des procédés que ses successeurs sauront également utiliser. L'enjeu de la première internationale, c'est la première internationale sera-t-elle communiste ou coopérative ? Sera-t-elle communiste ou autogestionnaire ? Et Bakounine a perdu parce que, tactiquement, Marx était autrement plus habile. Nous considérons donc cette revendication avant tout et l'organisation de la puissance internationale des travailleurs de tous les pays comme le but principal de notre association. Ceci, une fois admis, loin d'être les adversaires des entreprises coopératives dans le présent, nous les trouvons nécessaires sous beaucoup de rapports. Il est désirable que quand l'heure de la liquidation sociale sonnera, toujours ce côté eschatologique, elle trouve dans tous les pays, dans toutes les localités, beaucoup d'associations coopératives qui, si elles sont bien organisées et surtout fondées sur les principes de la solidarité et de la collectivité et non sur l'exclusivisme bourgeois, feront passer la société de son état présent à celui de l'égalité et de la justice sans trop de secousses. Aussi pourra-t-on opposer la commune à l'État. À la conception jacobine de l'État omnipotent et de la commune subalternisée, nous opposons la conception de la commune émancipée, nommant elle-même tous ses administrateurs, sans exception, pour un mandat pas trop long, faisant elle-même la législation, la justice et la police. À la conception libérale de l'État gendarme, nous opposons la conception de l'État désarmé, mais chargé d'instruire la jeunesse et de centraliser les grands travaux d'ensemble, la commune devient essentiellement l'organe des fonctions politiques ou de ce que l'on a appelé telle, la loi, la justice, la sécurité. Ce qui fait qu'un des héros des anarchistes, ça sera aussi Étienne Marcel. Je lis à propos de la commune encore un autre texte de Kropotkine. Je cherche dans mes différents ouvrages, ça c'est des recueils de textes anarchistes qui furent publiés par Daniel Guérin il y a fort longtemps, qui sont très précieux. Étant donné que les anarchistes sont un peu éclatés de tous les côtés, un recueil de textes est un instrument très pratique. La commune de demain saura qu'elle ne peut plus admettre de supérieur. Au-dessus d'elle, il ne peut y avoir que les intérêts de la fédération. Et donc plutôt qu'une république, on a une fédération. Oui. Plutôt qu'une propriété, on a une coopérative. Plutôt qu'une république, on a une fédération. Et c'est pourquoi donc, il y a deux principaux courants anarchistes, mais qui, au fond, consonnent. Un courant individualiste qui triomphe dans le terrorisme, l'attentat romantique d'un Émile Henry faisant sauter une bombe dans une brasserie. Et un courant donc fédéraliste, le fédéralisme étant l'idée d'une association qui n'est pas surplombée par une autorité centrale, mais qui est une agglutination de coopératives et de communes qui décident librement d'unir leurs activités plutôt que de se les voir imposer de manière centralisée. Ou bien la commune sera absolument libre de se donner toutes les institutions qu'elle voudra et de faire toutes les réformes et révolutions qu'elle trouvera nécessaires, ou bien elle restera ce qu'elle a toujours été jusqu'à aujourd'hui, une simple succursale de l'État, enchaînée dans ses mouvements, toujours sur le point d'entrer en conflit avec l'État et sûre de succomber dans la lutte qui s'en suivrait. La commune sait qu'elle doit briser l'État, 1885 le texte, et le remplacer par la fédération, et elle agira en conséquence. Plus que cela, elle en aura les moyens. Aujourd'hui, ce ne sont plus de petites villes seulement qui se lèvent, c'est Paris, c'est Lyon, c'est Marseille, c'est Carthagène, et bientôt ce seront toutes les grandes cités qui arboreront le même
drapeau.
Un autre point où la pensée anarchiste fait son chemin, a fait son chemin, c'est celui de l'éducation. Parce que l'éducation, là, nous nous sommes réunis pour une réflexion politique. Donc la politique, c'est la question de l'autorité. L'éducation, c'est aussi la question de l'autorité. Et donc, mai 68, d'ailleurs, c'est essentiellement présenté comme un mouvement qui s'intéresse aux questions de l'école, de l'éducation, de l'autorité parentale, etc. Et donc, un anarchiste, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'y aura d'émancipation que dans une société où l'éducation sera émancipée, elle-même. Non directive, sans autorité, sans règlement. Et donc c'est la thèse familière à bien des mouvements anarchistes, y compris contemporains, de l'émancipation de la société, en quelque sorte par les enfants, qui sont le brûlot antisocial par excellence. Et des enfants qui n'ont pas appris à se soumettre feront des citoyens qui ne se soumettront pas. Évidemment, des enfants qui ont appris à se soumettre à l'école, à se taire, à s'aligner, à croiser les bras, à dire bonjour à la dame et à ne pas faire de faute d'orthographe, feront des citoyens dociles. Donc si je veux créer une société telle qu'elle puisse être une fédération de volonté et de personnalité, il faut que, dès l'enfance, les esprits... non pas se soit désaccoutumé d'obéir, n'ait jamais pris donc l'habitude d'obéir, d'où l'importance donc pour les anarchistes de la libération des femmes, de la libération des enfants, de toutes les situations de tutelle archaïque, patriarcale. Il faudrait concevoir une éducation dans laquelle l'éducateur n'ait pas besoin d'être une autorité. Ah, vous voyez, ça, ben je peux vous dire que c'est le rêve de tous les pédagogues. Une éducation qui puisse faire l'économie de l'autorité. Une éducation où j'ai pas besoin de dire non, où j'ai pas besoin de dire mouche ton nez, où je puisse, au fond... à la rigueur, s'il y a un affrontement, que cet affrontement soit un affrontement de conscience à conscience. Parce que ce petit morveux, qu'est-ce qu'il va m'opposer ? Sa conscience. Et je ne vais, à une conscience, je ne vais pas opposer un point de règlement. Ah, rien n'est pire qu'un éducateur qui dit « le règlement, c'est le règlement qu'il a dit ». Un véritable éducateur est celui qui ne trouve rien d'autre à opposer à l'insoumission de l'enfant que... sa propre conscience, au fond. Ce qui fait que l'éducation est, comme le politique, hantée par le rêve d'une égalité. Je souligne au passage, c'est pas anodin du tout, que si quelqu'un comme Cohn-Bendit, qui fut anarchiste, a fait l'éloge de la pédophilie, c'est parce qu'il voyait, ainsi que Jerry Rubin et que tous ses contemporains, dans la pédophilie, une émancipation des enfants. Et la possibilité de faire voler en éclats ces oppressions, ces hiérarchies coutumières. Vous voyez, donc, il y a bien l'idée du caractère subversif du désir qui permet donc à l'individu de se réaliser lui-même. C'est encore Stirner qui l'exprime le mieux, justement à propos de... l'éducation. La misère de notre éducation actuelle vient pour une large part de ce que le savoir n'est pas affiné en volonté. Même plus, on distribue un savoir à condition que l'enfant abdique de sa volonté. Je lui dis, petit gars, je vais te donner du savoir, mais toi, donne-moi ton vouloir. Marcher odieux. Il faudrait au contraire que dans l'éducation, le savoir puisse être transformé aussitôt en vouloir, car qui sait gagne en liberté. Alors qu'on va faire de l'accès au savoir la condition, plutôt on va faire de la soumission une condition de l'accès au savoir. L'esprit qui anime la plupart des enseignants en est une preuve tristement vivante. Façonnés au mieux, ils façonnent à leur tour. Dressés, ils dressent. Toute éducation doit devenir personnelle. En d'autres termes, ce n'est pas le savoir qui doit être inculqué, c'est la personnalité, on la retrouve, qui doit parvenir à son propre épanouissement. Le point de départ de la pédagogie ne doit pas être de civiliser, ensauvagez-vous, encrapulez-vous. Le point de départ de la pédagogie ne doit pas être de civiliser, mais de former des personnalités libres, des caractères souverains. Aussi, la volonté jusqu'ici brutalement opprimée doit-elle cesser d'être affaiblie. Du moment qu'on n'affaiblit pas l'impulsion de l'enfant vers le savoir, pourquoi affaiblirait-on son impulsion vers le vouloir ? Si on cultive celui-là, qu'on cultive également celui-ci. La méchanceté des enfants, leur opiniâtreté ont autant leur raison d'être que leur soif de connaître. On stimule cette dernière avec zèle, qu'on excite aussi la force naturelle de la volonté, l'opposition. Si l'enfant n'apprend pas à se sentir lui-même dans l'opposition, c'est justement la chose principale qu'il n'apprend pas. Qu'on ne réprime ni sa fierté, ni sa franchise, contre sa pétulance, il me restera toujours ma propre liberté. Et si sa fierté se transforme en obstination, l'enfant me fera violence. Ce contre quoi je réagirai, car je suis un être libre, moi aussi. Sauf que je fais 95 kilos. Mais devrais-je me défendre en m'abritant derrière le rempart commode de l'autorité ? Non pas. Je lui opposerai la rigidité de ma propre liberté, de sorte que d'elle-même l'obstination de l'enfant tombera. Qui est un homme complet n'a pas besoin d'être une autorité. Superbe formule. Qui est un homme complet n'a pas besoin d'être une autorité. Sa propre liberté, au fond, diffusive de soi, devrait suffire pour qu'il s'impose à la pétulance et à l'impertinence des enfants. Conclusion, puisque j'ai promis de terminer tôt pour essayer de tester notre petite méthode avec votre amitié. La conclusion, elle est simple, c'est qu'effectivement, il est clair que nous avons affaire à une situation limite de la politique, qui ne peut absolument pas être un modèle politique, qui d'ailleurs au fond n'est pas conçu comme ça, qui est essentiellement conçu comme un contre-modèle. Et l'intérêt de cette limite indiquée par le contre-modèle, c'est bien de, comme je le disais au début, de ramener la réalité politique à ses fondements, c'est-à-dire à la question lancinante, qu'est-ce qui justifie qu'un homme en commande un autre ?